C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous parlons des enjeux de la consommation de la viande dans le monde. Pas pour vous convaincre forcément d'arrêter d'en manger, mais plutôt pour nous interroger sur le fait qu'elle a été multipliée par 4 depuis les années 50, avec en coulisses le développement d'une industrialisation de la mort. Nous tuons par milliards des espèces qui ne sont pas si éloignées que cela de nous par leur sensibilité, et le bilan écologique et sanitaire est déplorable. Cela méritait bien une émission.
C'est pas du vent sur RFI.
En France, l'association L214 dénonce à coups de vidéo-choc les coulisses de l'élevage, de la pêche industrielle et des abattoirs et multiplie les campagnes de sensibilisation avec des arguments éthiques et politiques. Brigitte Gauthier, l'une des fondatrices de L214, nous a reçus dans son bureau à Lyon, dans le sud-est de la France.
Ça pose vraiment une question de société, ça pose une question de choix politique aussi, de comment on accompagne une transition agricole et alimentaire. Or, aujourd'hui, effectivement, au niveau politique, il y a un refus de voir cette évolution. Au lieu de l'accompagner, on cherche à la freiner, alors qu'on voit bien que c'est un gouffre financier. Aujourd'hui, l'agriculture en France, elle ne vit que grâce aux aides, aux subsides de l'État, de la région, de l'Europe. On fait porter à l'ensemble de la société les impacts environnementaux. Je pense aux algues vertes, je pense aux émissions de gaz à effet de serre.
Vous pouvez rappeler ce que sont les algues vertes ?
Alors, les algues vertes, ce sont ces algues qui se développent actuellement sur les plages françaises, qui sont issues d'un excédent de nitrates dans les eaux de ruissellement, etc., provoquées notamment par les déjections des animaux. Il faut savoir que, par exemple, en Bretagne, l'équivalent des déjections des animaux maintenus dans les élevages, c'est l'équivalent de toutes les déjections de la population française. Donc on est vraiment sur des quantités vraiment importantes qui sont étendues sans aucun filtre finalement sur les champs alentour, l'épandage, c'est exactement ça quoi. Après, il y a l'impact sur la santé. On nous parle de H5N1, machin, pour éviter de nous parler de grippe aviaire, de grippe porcine, etc., qui sont finalement aussi les conséquences d'animaux qui sont élevés en grande claustration, enfermés les uns sur les autres, avec une variabilité aujourd'hui génétique très faible. Enfin, vraiment, il y a une course à la productivité qui est folle. Et on le voit d'ailleurs sur les animaux eux-mêmes. On voit ces vaches avec des pieds énormes, les vaches laitières auxquelles on a arraché le veau à la naissance pour qu'elles produisent du lait et qui pissent littéralement du lait, quoi. Donc les conséquences, elles sont vraiment énormes au niveau environnement, au niveau sanitaire, au niveau du partage des ressources aussi. Aujourd'hui, en France, on importe, on est un des premiers importateurs de soja du Brésil.
Pour nourrir le bétail.
Pour nourrir le bétail. Donc ça a des conséquences aussi sur des populations locales qui, au lieu de faire une agriculture vivrière, sont sur de l'exportation. On a aussi, dans l'autre sens, des produits, notamment ces poulets qui ont été tués dans des abattoirs français, qui sont envoyés sur les marchés africains et qui arrosent le marché là-bas avec des prix battant toute concurrence, puisqu'ils ont été produits avec des aides européennes.
Il y a un reportage qui avait énormément choqué, d'ailleurs on en voit là dans votre bureau, sont les poussins. C'est un peu l'envers des œufs finalement que l'on mange.
Oui, en fait, sur toutes les productions animales, on a une face qui est souvent cachée du public et qui est absolument atroce, inacceptable dès qu'on la montre. Et effectivement, en 2014, on a montré de quelle façon les poussins mâles dans la filière œuf étaient broyés. Et ça vient tout des sélections génétiques qui ont été faites avant, puisque aujourd'hui, on a deux branches pour les poules et les poulets. Il y a ceux qui sont destinés à faire de la chair, qui vont grossir en 42 jours au lieu de 80 auparavant, donc qui vont produire des muscles, qui vont avoir du coup des problèmes cardiaques, pulmonaires, des problèmes locomoteurs. Ça représente 800 millions de poulets abattus chaque année en France. Et puis de l'autre côté, les poules pondeuses et les mâles qui ne pondent pas d'œufs. Et donc, c'est une souche particulière qui a été développée pour que les poules pondent un maximum d'œufs. Elles sont à 300 œufs par an maintenant. Et bah, les poussins mâles ne servent à rien dans cette filière-là. Et donc, ils sont détruits à la naissance. Et ils sont détruits par broyage ou gazage. Et c'est effectivement les images qu'on a rendues publiques en 2014 et qui ont révolté une partie de l'opinion publique, qui ont provoqué des réactions de parlementaires, et y compris du ministère.
Parce que combien de poussins mâles sont broyés par an ?
Alors, pour la filière poule pondeuse, ça en représente 50 millions, ce qui est énorme. On peut parler de la filière foie gras aussi. Dans la filière foie gras, ils n'utilisent que les mâles. Et là, ce sont les femelles qui passent au broyage avec une toute petite partie, a priori, à l'exportation. Mais la plupart d'entre elles sont aussi broyées à la naissance. Et puis, il y a tous les poulets, tous les dindes, dindons, pintades, tous ces animaux qui naissent et qui sont indésirables parce qu'ils ont un défaut ou alors parce qu'on les a produits, mais oh mince, pas de commande. Donc, ils sont détruits aussi à la naissance. Et là, on ne sait pas chiffrer aujourd'hui combien d'animaux ça représente, mais c'est aussi un nombre faramineux.
Toutes ces vidéos que vous avez faites depuis la création de l'association en 2008, au fur et à mesure, ça choque l'opinion publique, ça enchaîne des réactions. Est-ce que pour autant, ça déclenche de l'action ?
Alors, ça déclenche des actions au niveau individuel. On a beaucoup de gens qui nous contactent en disant « ça va, j'ai compris, je vais changer ma façon de m'alimenter, j'arrête de manger les animaux ou je réduis, mais je suis en train de me poser des questions sur ma façon d'alimenter. » Et puis ça provoque aussi des actions au niveau plus haut, au niveau des parlementaires. C'est le cas d'Olivier Falorni, député des Charentes-Maritimes, qui a provoqué une commission d'enquête parlementaire pour faire un petit peu la lumière sur ce qui se passe dans les abattoirs. Ça a provoqué aussi des réactions chez le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui a demandé une inspection de tous les abattoirs. Il vient de rendre les résultats là. Il a publié l'ensemble des rapports d'inspection qui ont été faits au mois d'avril.
Donc plus de 250 abattoirs sur plus de 1000 en France. Vous les avez lus, ces rapports ?
Alors, pour l'instant, j'en ai lu une cinquantaine sur les 259 qui sont à disposition. C'est énorme. On voit que les images qui ont été tournées dans les 5 abattoirs qu'on a montrés dernièrement, puis dans ceux qu'on a montrés auparavant, il y avait des dysfonctionnements, mais que ces dysfonctionnements sont généraux finalement sur les abattoirs. Ils chiffrent à 31% le nombre d'abattoirs où il y a des dysfonctionnements moyens à graves. Mais dans les autres, il y a des dysfonctionnements qui sont qualifiés de mineurs, que nous n'aurions pas qualifié de mineurs, par exemple, des défauts d'étourdissement ou des choses comme ça, ou des couteaux pas affûtés avec des cisaillements, enfin voilà, des souffrances animales qui pourraient être évitables. Alors bien sûr, dans les abattoirs, ce sont des lieux de souffrance par définition, les animaux y souffrent, même quand la réglementation est respectée. Le fait de ne pas la respecter, ça augmente encore les souffrances qu'endurent les animaux.
Vous voyez bien, avec le travail que vous faites avec votre association, que ça a de plus en plus d'écho. Alors, si on regarde autour de nous, là, il y a plein de cartons parce qu'il y a des sweatshirts, des t-shirts, il y a des tracts. Vous essayez au maximum de diffuser vos convictions, mais vous avez aussi beaucoup de demandes. Ça prouve que la société française serait prête, selon vous ? Parce que c'est pas évident, hein, quand on se retrouve à discuter avec des gens et que, par exemple, il y a un steak sur la table et qu'on n'en veut pas, les barrières sont encore très complexes.
Alors, les barrières sont encore très complexes et pour autant, elles commencent quand même à bouger. On a eu des témoignages justement de végétariens ou véganes de longue date qui disaient, suite justement aux dernières vidéos qui ont été diffusées, notamment sur les abattoirs, le regard des gens sur moi a changé. Ils comprennent pourquoi je refuse de manger les animaux. Et ça, c'est quelque chose qui change. Et effectivement, nous, on est de plus en plus sollicités pour envoyer des tracts au niveau des lectures aussi. On voit bien, il y a de plus en plus d'ouvrages qui sortent sur la question. Le dernier livre d'Emeric Caron, antispéciste, le plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard, tout un tas de livres comme ça qui poussent à la réflexion. Oui, dans la population française, il y a vraiment de plus en plus de questions qui sont posées. On voit aussi le développement des restaurants végétariens ou véganes, cette offre d'une alimentation qui est différente, mais en même temps aussi savoureuse, gastronomique que l'autre. Enfin, les gens qui refusent de manger les animaux n'ont absolument pas fait une croix sur le plaisir de manger. Et il y a de plus en plus d'alternatives aussi qui se développent. Et c'est tant mieux, parce que ce qui manque en France aussi, c'est les alternatives. Quand vous allez au restaurant aujourd'hui, vous négociez votre repas. Alors avec les initiatives comme Vego Resto qu'on a développé, ou Vegan Pratique aussi, nouveau site qu'on vient de sortir, on essaye de proposer les alternatives.
Alors si on vous entend et qu'on se pose du coup la question du rapport à son alimentation, il faut savoir qu'il y a plusieurs strates avec tout un vocabulaire. On peut démarrer en étant flexitarien.
Alors oui, c'est un mot qui est apparu récemment. Le flexitarien, la flexitarienne, ceux qui mangent flexitarien sont ces personnes qui ont réduit leur consommation de produits d'origine animale, notamment la viande, et donc qui n'en mangent pas tous les jours. La viande fait partie des exceptions au lieu de faire partie de la règle.
Alors après, le stade au-dessus, ce sont les végétariens.
Les végétariens refusent de manger la chair des animaux, donc ni viande, ni poisson.
Et puis il y a les véganes. Alors là, c'est vraiment l'engagement le plus total.
Alors les véganes, c'est ceux qui essayent d'être cohérents avec le fait de ne pas faire maltraiter et tuer sans nécessité et qui ont pris la mesure des conséquences que ça avait, donc aussi bien au niveau alimentaire, donc ne consomment ni viande, ni poisson, ni lait, ni œufs, aucun produit d'origine animale, mais font attention aussi dans leur achat de cosmétiques, de produits d'entretien, qu'il n'y ait aucun animal dedans, aucun morceau d'animal dedans, ni qui n'ait été testé sur les animaux. Au niveau vestimentaire, on évite le cuir, la laine. Alors dans notre monde, c'est très compliqué. Il n'y a aucun, finalement, il n'existe aucun vegan pour de bon, mais des personnes qui tendent à essayer de faire le mieux possible avec le monde dans lequel ils sont.
Alors justement, c'est quoi pour vous? C'est une question de maturité? On se dit qu'on est une civilisation développée, que nous sommes des êtres pensants. Peut-être qu'il serait temps d'avoir un sursaut pour comprendre quelle est notre place dans l'environnement en général, et dire que nous ne sommes qu'un mammifère parmi d'autres, c'est un mélange d'humilité, de maturité.
Exactement, c'est un mélange d'humilité, de maturité, de sincérité aussi, parce que notre morale commune, c'est on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour savoir que le fait de tuer ces animaux, ce n'est pas une nécessité. Souvent, on nous rétorque, oui, mais le propre de l'homme, on est quand même supérieur aux animaux, etc. Si vraiment on a toutes ces réflexions et tout ça, ça devrait nous pousser justement à nous poser les bonnes questions, à prendre cette responsabilité d'être les êtres pensants de cette planète et du coup de réfléchir à notre impact sur les animaux eux-mêmes, d'oser se poser la question éthique, d'oser remettre en question effectivement des pratiques qui sont millénaires. Mais c'est pas parce qu'elles sont millénaires qu'elles sont légitimes aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales.
Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet.
Récemment, la Chine a surpris tout le monde en annonçant qu'elle allait imposer à ses habitants une réduction de la consommation de viande. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes notre correspondante à Pékin. Quelle viande est au menu dans les foyers chinois et est-ce qu'ils en consomment de plus en plus?
Alors, toutes les viandes sont au menu ici, surtout du porc et du poulet parce qu'il est bon marché, mais de plus en plus aussi du bœuf. C'est la viande du millionnaire, comme disent les Chinois. Plus les Chinois s'enrichissent, plus ils mangent aussi de la viande. En 1982, un Chinois consommait en moyenne seulement 13 kilos de viande chaque année, mais la croissance économique a radicalement changé ses habitudes alimentaires et aujourd'hui, les assiettes débordent donc de viande. La consommation annuelle par personne s'élève à 63 kilos. Il est vrai que les Américains et les Australiens en mangent bien plus encore, mais multipliez ces chiffres avec les 1,3 milliards d'habitants que compte la Chine et vous arrivez à ce constat. Les Chinois dévorent aujourd'hui presque un tiers de toute la viande consommée sur la planète, Anne-Cécile.
Alors, quels sont les arguments mis en avant par le gouvernement chinois pour limiter cette consommation et leur demande va dans quelle proportion?
Alors, le souci numéro un est la santé publique. La Commission nationale de la santé et du planning familial a mené une étude de longue durée avec ce résultat assez alarmant. En 10 ans, le taux d'obésité parmi les jeunes a triplé. La Chine tient aujourd'hui d'ailleurs le premier rang mondial. Un Chinois sur 3 est en surpoids, 1 sur 4 souffre d'hypertension et presque 1 sur 10 de diabète. Le gouvernement a donc décidé de corriger ces directives alimentaire qui datait de 2007. Dorénavant, il encourage les citoyens à manger moins de viande, entre 40 et 75 grammes par jour, au lieu des 50 à 75 grammes conseillés jusqu'à présent. C'est une réduction qui a l'air de rien, mais attention quand même, les nutritionnistes nous ont calculé que cela ferait baisser d'un tiers la consommation de viande et aurait donc un énorme impact sur la santé publique, par ailleurs aussi sur l'environnement. Car du coup, Anne-Cécile, les élevages industriels réduiraient leurs émissions de gaz à effet de serre d'1 milliard de tonnes d'ici 2030 au moins.
Oui, soit une réduction de moitié, hein, ce qui n'est pas négligeable puisque les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'élevage représentent 14,5% des émissions de la Chine. C'est plus que celles émanant de tous les modes de transport. Pour comprendre ces chiffres, il faut rappeler que les pets des animaux dégagent du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre, et que le défrichage des terres pour installer les animaux libère de grandes quantités de carbone. Alors, est-ce que c'est réaliste, ces recommandations du gouvernement chinois? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment parvenir à faire diminuer la consommation de viande dans le pays?
Bon, c'est évident que changer les habitudes alimentaires prendra du temps. Tout dépendra aussi des moyens que la Commission nationale de la santé se donne pour convaincre les citoyens à manger plus de fruits et de légumes et moins de viande. Une hotline téléphonique proposée depuis peu de temps ici ne suffira certainement pas à inverser la tendance. Difficile de toute façon de mener ce travail au niveau officiel quand on voit à quel rythme les grandes chaînes américaines ouvrent des filiales en Chine. Du coup, la consommation du fast-food à l'occidental avec ses plats bien gras explose ici.
Et voilà pourquoi, pour accompagner sa campagne, la Chine a trouvé un soutien auprès de Arnold Schwarzenegger et de James Cameron, personnalité mondialement connue, qui tourne un clip en ce moment afin de sensibiliser justement la population chinoise à ces nouvelles recommandations nutritionnelles et écologiques. Merci Heike Schmidt.
Merci.
I don't eat no meat, no dairy, no sweets. Only ripe vegetables, fresh fruit and whole wheat. I'm from the old school, my household smell like soul food, bruh. Curry falafel, barbecue tofu. No fish though, no candy bars, no cigarettes. Only ganja, fresh squeezed juice from oranges. Exercising daily to stay healthy. And I rarely drink water out the tap cause it's filthy.
Lentil soup is mental fruit and ginger root is good for the youth. Fresh vegetable with them Itai stew. Sweet yam fries with the green callaloo. Careful how you season and prepare your foods, cause you don't wanna lose vitamins and minerals, and that's the jewel. Life brings life, it's valuable. So I eat what comes from the ground, it's natural. Let your food be your medicine, no excedrin. Strictly herbs generated from the sun, cause I got melanin and drink water. 8 glasses a day, cause that's what they say.
They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. Be healthy, y'all.
L'un des indicateurs du rapport que nous avons avec ces animaux, ce sont les textes de loi qui définissent les droits et les devoirs de chacun. Bonjour Jean-Pierre Marguenot.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles à l'université de Limoges. Vous êtes d'ailleurs en duplex de Limoges grâce aux équipes de France Bleu Limousin. Vous avez coécrit le droit animalier aux presses universitaires de France. Alors la première question, c'est qu'est-ce que l'on entend par animal dans nos textes juridiques ?
C'est la question la plus difficile auquel le droit est à répondre, parce qu'il n'y a pas de véritable définition juridique de l'animal. Il y en a quand même une dans une directive de l'Union européenne du 22 septembre 2010 qui concerne la protection des animaux soumis à des expériences scientifiques, qui les définit par l'aptitude à ressentir de la douleur, de la souffrance et de l'angoisse.
Alors ça, c'est quand même la preuve d'une certaine évolution. On va en parler parce que dans votre livre, où vous posez cette question justement sur qu'est-ce que l'animal et qu'est-ce que le droit animalier, vous citez Emmanuel Kant. Alors je vais lire cet extrait, c'est un extrait des conjectures sur les débuts de l'histoire humaine. Et pour du Kant, pour une fois, c'est compréhensible. Le quatrième et dernier progrès que fit la raison achevant d'élever l'homme tout à fait au-dessus de la société animale, ce fut qu'il comprit qu'il était proprement la fin de la nature et que rien de ce qui vit sur terre ne pouvait lui disputer ce droit. La première fois qu'il dit au mouton « La peau que tu portes, ce n'est pas pour toi mais pour moi que la nature te l'a donnée », qu'il la lui retira et s'en revêtit, il découvrit un privilège qu'il avait en raison de sa nature sur tous les animaux. Et il cessa désormais de les considérer comme ses compagnons dans la création pour les regarder comme des moyens et des instruments mis à la disposition de sa volonté en vue d'atteindre les desseins qu'il se propose. Tout est dit.
Tout est dit, mais c'est plus tout à fait de cette manière-là que les choses se présentent, notamment grâce à la loi du 7 février 2015, qui a reconnu que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, ce qui peut correspondre à une définition du point de vue du Code civil, même si c'est une définition extrêmement simplifiée.
Alors, doué de sensibilité, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a toujours des abattoirs, il y a des projets comme celui de la ferme des 1000 vaches, par exemple, dans le nord de la France, qui a poussé comme un champignon en 2014, où là, on est vraiment toujours dans cette logique de l'industrialisation et pas du tout de l'acceptation de la sensibilité des animaux.
Bien entendu, le paradoxe auquel nous avons à faire face depuis déjà longtemps, c'est que d'un côté, les textes protecteurs des animaux sont de plus en plus nombreux, de plus en plus précis et même de plus en plus audacieux. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant d'animaux qui ont autant souffert aussi cruellement en France et ailleurs. Donc il y a un décalage. Ce n'est pas un phénomène inconnu, le décalage entre la règle de droit et son application concrète, c'est presque un lieu commun. Mais en matière de protection des animaux, le décalage est plus grand encore sans doute que dans tous les autres domaines, dans tous les autres secteurs. Donc il faut arriver à trouver un moyen pour que les règles qui évoluent aient une prise directe sur les réalités de plus en plus cruelles et de plus en plus sordides. Mais j'ai l'impression que les choses commencent à changer. Il y a une inversion de tendance qui s'est opérée et dont on verra, je l'espère, les premières manifestations concrètes, pratiques, assez vite.
Merci Jean-Pierre Marguenot. Je rappelle le titre de votre livre, « Le droit animalier ». C'est publié aux Presses universitaires de France.
Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Pour l'historien et philosophe des sciences Thomas Le Pelletier, auteur de La Révolution végétarienne aux éditions Sciences Humaines, ce n'est qu'une question de temps. Demain, nous serons tous végétariens.
C'est inéluctable parce que c'est une prise de conscience qui est en train de se faire. On n'a pas besoin de produits d'origine animale pour se nourrir, pour être en bonne santé. Et on constate que toute production de produits d'origine animale se fonde sur de la cruauté. Comme la cruauté est de moins en moins acceptée dans nos sociétés, je pense qu'il va y avoir cette prise de conscience et cette incohérence de perpétuer la cruauté et de continuer à manger des produits d'origine animale va amener les citoyens à dire non à la cruauté qu'ils perpétuent sans s'en rendre compte pour beaucoup.
Qu'est-ce qui explique cette révolution culturelle, j'ai envie de dire ? C'est le fait qu'on découvre, on commence à avoir conscience des dessous de cette industrie ?
C'est plusieurs choses. C'est effectivement la prise de conscience, l'ampleur du massacre qui a lieu actuellement sur notre planète.
Alors vous dites
60 milliards d'animaux terrestres sont abattus chaque année dans les abattoirs à travers le monde. Pour la France, c'est à peu près 1 milliard d'animaux terrestres. Bon, ça se fait forcément dans des conditions abominables. Bon, pourquoi se permettons-nous d'abattre, de tuer, de torturer ou de faire souffrir des animaux juste pour notre plaisir gustatif, puisque c'est ça. C'est une industrie qui marche un peu sur la tête, on pourrait dire. C'est une industrie qui est fondée sur la souffrance, qui est fondée sur la cruauté et qui est inutile.
Il y a des élevages, ça c'est quand même une réalité, qui sont plus respectueux des animaux que d'autres.
Tout à fait. Donc il faut se féliciter que tous les élevages ne sont pas industriels. Mais même dans les élevages où on dit prendre soin du bien-être animal, il faut quand même savoir que la finalité c'est quand même l'abattoir. Et les animaux vont aller dans les mêmes abattoirs que les animaux qui ont été élevés dans l'industrie. Donc, de toute façon, ils vont finir dans des conditions abominables, exactement comme les autres animaux. Mais même si vous prenez un abattoir qui est censé prendre soin des bêtes, il faut bien savoir que pour exploiter les animaux, il faut forcément les faire souffrir. Je vais prendre l'exemple du lait qui est tout simple. Si vous voulez du lait, donc des produits laitiers, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est le fromage qu'on met sur sa pizza, tous les fromages qu'on mange, il faut prendre le lait à la vache. Et pour prendre le lait à la vache, il faut lui arracher le veau quand il a 24 heures. C'est-à-dire que la vache, c'est quand même un mammifère, les bovins sont des mammifères, ils aiment leur bébé. Le veau, il aime forcément sa mère, il a besoin de l'affection de sa mère. Or, même les éleveurs dits traditionnels qui disent prendre soin des animaux, ils vont arracher les veaux à leur mère quand ils sont tout jeunes, quand ils ont 24 heures. Ils vont faire donc souffrir terriblement les vaches. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le veau? Au bout de quelques mois, ils vont l'envoyer à l'abattoir après l'avoir engraissé. Donc vous voyez, même un élevage qui n'est pas industriel se fonde sur la cruauté et la souffrance. Et tout ça pour gagner de l'argent.
Alors maintenant, savoir qu'une pratique est contestable sur le plan de la morale, ça peut occasionner une certaine gêne, mais pas forcément mobiliser les foules.
C'est ça qui est dommage, surtout que c'est cette hypocrisie ambiante. Quand vous montrez les films de ce qui se passe dans les abattoirs, on a juste entendu un reportage radio tout à l'heure, mais quand vous montrez les films à n'importe qui autour de vous de ce qui se passe dans les abattoirs ou les conditions d'élevage, je crois qu'une truie, même avant d'aller à l'abattoir, elle passe la moitié de sa vie enfermée dans une cage où elle ne peut pas avancer, pas se retourner sur elle-même, pas reculer. Bon, c'est une abomination, une vie de truie. Quand on montre ça à tous les citoyens, ils vont dire c'est abominable. C'est pas moi, là, Thomas Le Pelletier, qui aujourd'hui dit que c'est abominable. Vous passez les films à n'importe qui, tout le monde vous dit que c'est abominable. Donc à partir du moment où tout le monde se rend compte que c'est abominable, ben, il faut arrêter d'être complice d'un système qui est abominable. Et la seule façon d'arrêter d'être complice d'un système qui est abominable, c'est ne pas acheter les produits, ne pas consommer les produits qui proviennent de ce système.
J'espère qu'après cette émission, vous ne regarderez plus jamais pareil votre steak ou votre aile de poulet. J'espère que nous vous avons apporté de la matière à réflexion. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.
Et si le